Il est 21h01, vous écoutez Europe 1, c'est l'heure du journal, Isabelle Millet.
Les affichages sont pas corrects, les horaires, on n'a aucune info, on n'est pas renseigné, on nous laisse un peu à l'abandon, hein, clairement.
À la une ce soir, cette grève surprise à la SNCF qui sème une sacrée pagaille. C'est inédit, les cheminots font valoir leur droit de retrait. Rebelote pour les époux Balkany, 5 ans de prison ferme pour le maire de Levallois, 4 pour son épouse.
Comme nous l'avons toujours dit et comme cela a été confirmé publiquement et officiellement aujourd'hui, il n'y a pas de corruption.
Isabelle et Patrick Balkany qui font appel de cette nouvelle condamnation. Y aura-t-il assez de médecins aux urgences pédiatriques cet hiver? Une dizaine d'hôpitaux sonnent l'alerte. La France lance avec l'Allemagne et le Royaume-Uni une initiative commune pour la Syrie, alors que le cessez-le-feu annoncé hier soir n'a aucune réalité sur le terrain. Une marée humaine aux couleurs de l'indépendance à Barcelone. 500 000 de personnes ont envahi les rues aujourd'hui. Quelques incidents en fin de journée, on sera sur place avec Henri Delaguéry. Et puis Nice PSG, c'est du foot et ça se passe en ce moment sous vos yeux. Julien Froment, bonsoir Julien.
Bonsoir.
Le 9e de Ligue 1 qui reçoit le leader et c'est Paris qui domine.
Oui exactement, 58e minute de jeu, 2-0 pour Paris face à Nice, doublé signé André Di Maria.
Julien Froment que l'on retrouve plus longuement, bien sûr, d'ici quelques minutes. Un temps très gris demain et dimanche, c'est un week-end pluvieux qui se profile, sachez-le. Et ne manquez pas les prévisions complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir Franck Marillé. Il est le patron européen du groupe de cosmétiques Shiseido et patron monde pour les parfums. Le japonais qui investit à grande échelle dans l'Hexagone.
Europe 1.
Et cette grève inopinée à la SNCF qui a donc pris tout le monde de court. Les usagers l'ont découvert par un tweet de la SNCF, tweet qui disait ceci. Suite à une grève sans préavis, les circulations sont perturbées ce matin dans plusieurs régions. Et effectivement, plus la journée avançait, plus on découvrait l'ampleur de ce mouvement qui a perturbé le trafic des RER, des Transiliens, des TER, mais aussi de quelques TGV. Seulement un train express régional sur deux circulait en moyenne. La région Occitanie, particulièrement affectée, la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire, l'Île-de-France également. Alors c'est une situation qui est tout à fait inédite hein, et visiblement la SNCF a du mal à gérer. On va aller tout de suite Gare de Lyon à Paris rejoindre Élise Dangean en direct. Élise, cette journée, elle a été compliquée. Hein.
Oui, et c'est une surprise dont les usagers se seraient bien passés. Ils sont encore nombreux en gare. Certains attendent un RER, seule option pour rentrer chez eux. D'autres attendent le TGV de leurs vacances. Le sentiment de ras-le-bol est plus que jamais palpable, comme chez cette commerçante Angélique qui doit rentrer chez elle dans le Val d'Oise.
C'est fatigant. C'est toujours les mêmes qui se retrouvent bloqués, toujours les mêmes qu'on prend en otage. On n'a aucune info, on n'est pas renseigné, on nous laisse un peu à l'abandon. Là, il n'y a vraiment rien, on ne sait pas.
Alors malgré la gronde des usagers, les cheminots assument. C'est le cas de Siga, 32 ans, agent commercial à la gare du Nord. Pour elle, les usagers devraient se sentir concernés.
Aujourd'hui, on n'est plus en sécurité, autant les agents que les clients. On peut comprendre que c'est irritant, c'est agaçant, mais on veut qu'on ait une garantie qu'ils arrivent à leur destination en vie. Le but, c'est pas de prendre le train et de ne pas savoir si on va rentrer à sa gare ou à son domicile en vie. Et aujourd'hui, on se bat pour eux, mais aussi pour nous.
Alors c'est un argument que certains usagers parviennent à comprendre, mais tous dénoncent le manque d'informations depuis ce matin.
Merci beaucoup Élise Dangean, vous étiez en direct de la gare de Lyon pour Europe 1. On vient de l'entendre, à l'origine de ce mouvement, il y a les cheminots qui ont décidé de faire valoir leur droit de retrait après un accident survenu mercredi soir dans les Ardennes. Un TER a percuté un convoi exceptionnel sur un passage à niveau. 11 personnes ont été légèrement blessées, dont le conducteur du train qui a dû lui-même assurer la sécurité des voyageurs. Alors le gouvernement déplore cette grève surprise en dehors, dit-il, de tout cadre légal. La SNCF juge ce mouvement sans préavis injustifié. Les cheminots, eux, disent faire jouer leur droit de retrait. Olivier Samain du service économie d'Europe 1, expliquez-nous, est-ce que c'est fondé effectivement dans le cas présent ?
Eh bien, je vous renvoie au Code du travail qui subordonne l'exercice du droit de retrait à l'existence d'un danger grave et imminent pour la vie ou la santé du travailleur. Dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, un salarié peut quitter son poste et il ne sera pas sanctionné. Alors, y a-t-il danger grave et imminent à conduire un train sans la présence d'un contrôleur ? Puisque c'est sur cet argument que s'appuient les syndicats de cheminots après l'accident du TER mercredi, où le conducteur était tout seul. Nous avons interrogé plusieurs juristes spécialistes de la question. Leur réponse est nette, non. Pas de danger grave et imminent, sachant que le mode de conduite sans contrôleur est en place depuis plusieurs années à la SNCF et qu'il aurait fallu, pour invoquer le caractère imminent que les cheminots exercent leur droit de retrait dès sa mise en place, et pas seulement aujourd'hui. Ça, c'est donc le droit, mais la direction de la SNCF n'a pas l'intention, en tout cas dans l'immédiat, de brandir la menace de sanctions. Ce serait explosif, nous dit un spécialiste du dossier, alors qu'une grève massive est annoncée contre la réforme des retraites le 5 décembre, d'où le choix, plutôt, de la concertation.
Les précisions d'Olivier Samin du service économie d'Europe 1, dures dans les gares, donc pas facile non plus sur les routes avec le début des vacances scolaires. Cette soirée est classée orange. L'actualité ce soir, c'est aussi cette nouvelle condamnation pour le couple Balkany. Deuxième round de leur procès et de nouveau de la prison ferme. Salomé Legrand, les peines sont même plus lourdes que les réquisitions du parquet.
Et pourtant, Isabelle, tout un pan du dossier a été écarté par le tribunal. Les prévenus ont été intégralement relaxés des faits de corruption et de prise illégale d'intérêts. En revanche, les juges estiment que les époux Balkany sont coupables de fraude fiscale aggravée, jugement longuement motivé qui condamne un enrichissement personnel d'autant plus intolérable qu'il a été commis par des élus. Patrick Balkany avait refusé de quitter sa cellule. Il a été condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt. Le président a estimé qu'il était indéniablement enracinée dans la délinquance. Isabelle Balkany, elle, a vacillé dès le début de la lecture et a écouté assise sa condamnation à 4 ans de prison ferme. Elle échappe au mandat de dépôt en raison de son état de santé. Tous deux sont également condamnés à 10 ans d'inéligibilité et leurs biens immobiliers sont saisis, y compris le moulin de Giverny. Prochain rendez-vous pour Patrick Balkany devant la justice mardi pour demander sa mise en liberté. Il dispose de garanties de représentation et a laissé son passeport au juge. Il a de bonnes chances d'être libéré, mais pas forcément tout de suite.
Salomé Legrand du service police et justice d'Europe 1. Écoutez la réaction maintenant d'Isabelle Balkany après cette deuxième condamnation, toujours droite dans ses bottes.
Comme nous l'avons toujours dit et comme cela a été confirmé publiquement et officiellement aujourd'hui, il n'y a pas un centime d'argent public, c'est uniquement notre patrimoine familial et il n'y a pas de corruption.
Isabelle Balkany au micro Europe 1 de Laurent Pellet. Le ministère de l'Agriculture annonce la levée des dernières restrictions de commercialisation de produits agricoles mises en place après l'incendie de l'usine chimique de Lubrizol à Rouen. Mais une surveillance rapprochée des produits va être maintenue. Par ailleurs, sur le site même de l'usine, l'enlèvement de 160 fûts endommagés contenant un produit potentiellement dangereux pourra démarrer mardi prochain, une opération très délicate qui devrait durer 2 mois. Le ministre français de l'économie indique ce soir que l'administration américaine a ouvert la porte à des négociations sur les tarifs imposés par Washington sur les produits européens, en représailles aux subventions accordées à l'avionneur européen Airbus. Le plus tôt sera le mieux, dit Bruno Le Maire.
Europe 1, le journal de la nuit, Isabelle Millet.
Il est 22h08, merci d'écouter Europe 1. On va tout de suite prendre la direction de Barcelone avec une journée de grève générale en Catalogne à l'appel des indépendantistes. Une marée humaine dans les rues, 500 000 de personnes d'après la police municipale et des violences qui ont repris ce soir. Henri Delaguerie, vous êtes dans les rues de Barcelone.
Oui, ce soir, les affrontements ont lieu dans les petites ruelles du quartier gothique, très fréquentées par les touristes, les jeunes indépendantistes mineurs pour certains, ont levé encore une fois des barricades, des conteneurs sont en feu. Un peu plus tôt pourtant, une gigantesque manifestation s'était déroulée dans le calme. Parmi les manifestants, Anna, qui a l'impression d'avoir été elle-même condamnée.
Ils n'ont rien fait, on a juste voté. Alors comment on peut mettre en prison des gens qui ont juste voté? Alors on ne comprend pas, voilà. Il faut que l'Europe le sache, que tout le monde le sache. À notre avis, ce n'est pas normal, ce n'est pas démocratique. Voilà.
Et comme chaque soir, ce que vous entendez derrière moi, c'est l'hélicoptère de la police qui tourne dans le ciel de Barcelone pour les forces de l'ordre. La situation est de plus en plus critique et on se demande comment sortir de cette crise. La justice espagnole ne reviendra pas sur le verdict. Les manifestations ne vont pas se terminer de sitôt. Le blocage est absolu avec en creux cette fracture au sein de la société catalane.
Henri Delaguerie, correspondant d'Europe 1 à Barcelone. L'offensive de la Turquie dans le nord-est de la Syrie, vous savez qu'un cessez-le-feu de 5 jours a été annoncé hier. Une trêve précaire sous le patronage des États-Unis. Sur le terrain, pourtant, des échanges de tirs et des bombardements ont eu lieu aujourd'hui. Un porte-parole des Kurdes dénonce une violation du cessez-le-feu. Et Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui une initiative commune avec Angela Merkel et Boris Johnson pour rencontrer prochainement le président turc Erdogan.
Je considère que ce qui s'est passé depuis plusieurs jours est une faute lourde de l'Occident et de l'OTAN dans la région. Je ne peux que constater qu'aujourd'hui dans la région, ceux qui sortent gagnants, par la loi du plus fort, c'est la Turquie, la Russie et l'Iran. Je ne suis pas sûr que c'était exactement l'élément stratégique qui était le plus pertinent ni pour l'Europe ni pour les États-Unis d'Amérique. Cela affaiblit durablement notre crédibilité pour trouver des partenaires sur le terrain qui se battront à nos côtés en pensant qu'ils sont protégés durablement. Mais je pense que ça interroge aussi le fonctionnement de l'OTAN. Enfin, pardon de dire ça, mais il ne faut pas faire semblant. Et donc, il est important que nous puissions nous réunir et nous coordonner.
Emmanuel Macron au micro européen d'Adrien Beck. Le lourd bilan de l'attaque dans une mosquée en Afghanistan aujourd'hui au moment de la prière. 62 morts, 33 blessés, attaque condamnée par les talibans et pas encore revendiquée. En Côte d'Ivoire, l'ancien chef de la rébellion ivoirienne Guillaume Soro, ex-président de l'Assemblée nationale, passé à l'opposition, annonce aujourd'hui sa candidature à l'élection présidentielle de l'an prochain. Le régulateur américain accuse Boeing de lui avoir caché des documents importants liés à la certification du 737 MAX. Il s'agit de cet appareil qui est cloué au sol depuis 7 mois après 2 accidents qui ont fait 346 morts. Un échange entre employés de Boeing datant de 2016 révèle que le système automatique qui devait empêcher le 737 MAX de partir en piqué, que ce système rendait l'avion difficile à piloter en simulateur, système pourtant crucial pour le bon fonctionnement de l'appareil.
Europe 1, Isabelle Millet.
Crise sanitaire, les mots sont forts. 28 chefs de services d'urgence pédiatrique lancent un cri d'alarme. Une dizaine d'hôpitaux vont manquer d'internes cet hiver, pile au moment où les épidémies se multiplient chez les plus jeunes en particulier. Et cela, Virginie Selmen, à cause d'une erreur de l'administration. Expliquez-nous, Virginie.
Au moment d'attribuer les postes aux internes, les responsables administratifs se sont trompés dans leurs estimations. Ils ont ouvert trop de postes, 327 au lieu de 175, par exemple, l'an dernier. Ce qui fait que les internes se sont rués sur les hôpitaux parisiens. Necker, la Pitié-Salpêtrière, Robert Debré. Résultat, en grande banlieue, il y a des services d'urgence pédiatrique dans lesquels il y a zéro interne, à Melun-Sénart, Évry ou Rambouillet. Alors l'Agence régionale de santé cherche des solutions. Elle appelle d'abord au volontariat, notamment auprès d'une quarantaine d'internes qui sont dans des services parisiens où ils sont un peu plus nombreux que nécessaire, explique Didier Jaffre de l'Agence régionale de santé.
Tout le travail va consister maintenant à contacter individuellement les internes qui sont sur ces établissements, puisque c'est sur la base du volontariat. L'agence va bien entendu accompagner financièrement cette incitation de manière à ce que ce soit positive. On serait sur un tiers de rémunération en plus.
C'est-à-dire environ 500 euros de plus sur un salaire de 1 500. Et les maires de certaines villes de banlieue ont déjà proposé des logements pour accueillir ces internes volontaires.
Virginie Salmen du service Société d'Europe 1. Plus de 2 tonnes de pollen de cannabis saisies dans le Loiret. 6 personnes habitant la région ont été interpellées, mises en examen. Le pollen de cannabis, plus concentré que la résine habituelle, était destiné aux consommateurs de la région parisienne. Une saisie qui représente 20 millions d'euros à la revente. C'est le genre de scène à laquelle on n'a pas du tout envie d'assister quand on prend l'avion. Et c'est Europe 1 qui vous a révélé cette histoire à la mi-journée. Un vol Paris-Marrakech a dû faire demi-tour ce matin après qu'un passager a tenté d'ouvrir une porte de l'avion, celle de l'issue de secours. Un homme qui souffre visiblement de troubles du comportement. Ce sont les passagers et l'équipage qui l'ont maîtrisé. Pierre était à bord de ce vol Transavia.
15 minutes après le décollage, on a entendu d'un coup des cris et des ceintures qui se détachaient d'un coup. On s'est retourné et en fait, un passager, un déséquilibré, qui a essayé d'ouvrir la porte de la sortie de secours. Du coup, tout de suite, les gens lui ont sauté dessus, ont essayé de le maîtriser, mais il était très agité, quoi. Du coup, tout le monde s'y est mis. Les stewards sont arrivés avec des menottes, ont réussi à le menotter. C'était un mec qui était avec sa mère, qui était assis à côté de lui. C'était la mère qui est au bord de la sortie de secours et il est passé par-dessus. Apparemment, il a essayé d'ouvrir la porte. Voilà.
Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce que vous avez entendu?
Il n'a rien dit. Personne, visiblement, n'a entendu crier quoi que ce soit au moment où il a essayé d'ouvrir la porte. Vu que tout le monde lui a sauté dessus, j'ai cru qu'il avait un couteau, enfin, qu'il essayait d'agresser quelqu'un. Et du coup, c'était terrifiant parce que tout le monde a crié. Sur le coup, on s'est dit qu'on allait y passer et qu'il était dangereux et qu'il était peut-être armé et tout ça. Donc, on a eu très très peur, enfin, on a vraiment cru que c'était foutu, enfin c'était fini quoi. Bon, on est encore un peu sous choc, j'en tremble encore en vous en parlant parce que voilà, c'est terrifiant, on a vu notre fin arriver quoi.
Effectivement, un témoignage recueilli pour Europe 1 par Guillaume Bier. L'homme, un franco-marocain de 34 ans, a bien sûr été arrêté. Et précision importante, la compagnie souligne que la porte en plein vol n'aurait de toute façon pas pu s'ouvrir. C'est impossible en raison de la pression. On va retourner à Nice tout de suite, puisque vous savez que se joue en ce moment un match de Ligue 1. Nice qui reçoit le leader du championnat, le PSG, Julien Froment. On vous retrouve en direct. Ça y est, Nice a marqué. Hein.
Oui, exactement. 72 minutes de jeu et 2-1 donc pour Paris face à l'OGC Nice. Paris Saint-Germain qui pensait avoir fait le plus dur en première période grâce à l'Argentin Unreal Di Maria, auteur d'un doublé à la 14e et à la 21e minute de jeu. Deuxième but d'ailleurs magnifique de l'Argentin, un lob sur le gardien niçois Walter Benitez. Et puis Paris là se met à déjouer un peu tout seul comme un grand depuis la sortie de son capitaine Thiago Silva. C'est Marquinhos qui l'a remplacé. Et Marquinhos, eh bien, a été fautif d'une grossière erreur, on va dire, de relance. Il a voulu remettre le ballon à son coéquipier Presnel Kimpembe. C'était pas assez appuyé. Et c'est le niçois Ganago qui en a profité pour aller marquer. Alors que là, il y a peut-être une occasion avec la frappe de Claude Maurice, finalement arrêté dans la surface de réparation parisienne. Paris qui aurait pu inscrire un troisième but, mais l'Espagnol Pablo Sarabia, qui s'est retrouvé face au but, eh bien, a raté une belle opportunité. Donc voilà, match très animé où Nice est en train, eh bien, de refaire petit à petit son retour dans la partie. 73 minutes de jeu, 2-1 pour Paris face à Nice.
Merci beaucoup Julien Froment en direct de Nice. Pas de but pour l'instant en direct, mais peut-être tout à l'heure puisqu'on essaiera de vous retrouver Julien un peu avant 22h30. En rugby, dimanche, le 15 de France affronte le Pays de Galles. Soulagement dans les rangs des Bleus qui pourront bien compter sur deux de leurs principales armes offensives, Damien Penaud et Antoine Dupont, pour perforer la muraille galloise. Tous deux étaient incertains suite à des blessures. Le coup d'envoi de ce match, c'est à 9h15 heure française. Et on jette un œil tout de suite sur la météo.
N'adaptez plus vos pneus aux conditions climatiques. Ce sont vos pneus 4 saisons Hankook qui s'adaptent à la route. Hankook vous présente la météo.
Anissa Haddadi, vous nous annoncez une fin de semaine de saison.
Oui, c'est ça Isabelle, un week-end très automnal. En effet, demain samedi, la France sera sous les nuages. De la Bretagne aux côtes de la Manche, là, les éclaircies et les nuages se disputent le ciel. Les averses seront principalement localisées sur le littoral. Des Pays de la Loire aux Hauts-de-France, après la dissipation des nuages, vous verrez de beaux rayons de soleil demain après-midi. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. De l'Aquitaine à l'Alsace, aïe aïe aïe, là ça se complique. Le Limousin, l'Auvergne, le Jura, la Franche-Comté seront sous l'eau. Demain, le ciel est très encombré avec des nuages épais qui vous apportent des pluies fréquentes et assez soutenues. Dans un triangle qui comprend l'Occitanie, le Languedoc-Roussillon et le sud du Massif central, là, la journée sera relativement agréable et ensoleillée. Et puis sur le quart sud-est, je crois que j'ai oublié personne, hein, le quart sud-est, la région lyonnaise, les Alpes et la Côte d'Azur, bien des orages sont possibles. Les températures demain sont comprises entre 7 et 18 degrés le matin de Brest à Toulon. Demain après-midi, 15 à Lille, 16 à Strasbourg, 17 à Paris, 18 à Bordeaux et 23 pour Marseille.
Vous n'avez oublié personne, la météo signée Anissa Haddadi.
Europe 1.
Dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. Juste avant, l'invité éco d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le patron européen du groupe de cosmétiques Shiseido, numéro 5 mondial des cosmétiques. A tout de suite sur Europe 1. Merci d'écouter Europe 1, il est 22h19 et à cette heure-ci, comme tous les soirs, on s'intéresse à la bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et la semaine termine en baisse à Wall Street.
Oui, les indices calent ce soir, repli de 0,95%, 26 770 points pour le Dow Jones. Le Nasdaq lui perd 0,83%, 8 090 points. Les inquiétudes pour la croissance mondiale font leur retour. On a des signes de ralentissement de l'économie aux États-Unis, mais aussi en Chine. C'est bien sûr la conséquence de la guerre commerciale qui divise les deux pays. Un accord partiel a été décroché il y a quelques jours, mais il faut encore le signer. Peut-être d'ici la mi-novembre, d'après les déclarations de Donald Trump ce soir. Lourdes sanctions pour Boeing, le titre de l'avionneur américain dégringole de près de 7%.
Et oui, forcément, on en parlait tout à l'heure.
Oui, Boeing donc, qui est accusé d'avoir caché des documents importants liés à la certification du 737 MAX. Cet appareil qui est cloué au sol depuis le mois de mars après deux accidents mortels. Du côté des hausses, on a Coca-Cola. Les ventes de boissons ont été légèrement supérieures aux attentes au troisième trimestre. Coca-Cola en profite pour gagner 1,8%. Le pétrole recule, pénalisé par les inquiétudes pour la croissance chinoise. Le baril WTI perd 0,3%, 53,78$. Et puis l'euro monte encore de 0,4%, 1,1161$.
Et à Paris, le CAC 40 a lui été pénalisé par les mauvais résultats financiers de plusieurs entreprises.
Oui, de mauvais résultats qui font plier le CAC 40. Il perd 0,65% à la clôture, 5636 points. Renault dérape ce soir. Le constructeur automobile revoit ses objectifs en baisse. Le marché est difficile, notamment en Turquie, en Argentine. Et ça s'ajoute aux difficultés de Renault qui traverse déjà une grosse crise de gouvernance depuis le départ de Carlos Ghosn. Le titre Renault chute de plus de 11% ce soir. Plongeons aussi de 14% pour Fnac Darty. Là aussi, les résultats sont inférieurs aux attentes pour le distributeur de produits culturels.
Et Danone, Claire, a aussi déçu les investisseurs.
Avec un petit ajustement pour Danone qui a revu en légère baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour cette année. Mais ça suffit à envoyer le titre au tapis. Il chute de 8,4%. C'est le même scénario pour Thales, le groupe d'électronique qui perd plus de 5%. Donc, des avertissements d'entreprises qui pèsent ce soir sur le CAC. Les marchés européens sont restés prudents en attendant le vote sur le Brexit demain à Londres. À Londres, justement, le FTSE perd 0,4%. Francfort est stable. Bruxelles perd 0,5%. Milan, moins 0,2%. Madrid, moins 0,1%. Et à Paris, le CAC 40 recule de 0,65%. 5636 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon toujours très complet. Claire Lemaître de Boursier.com. Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité éco.
L'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour imprimer des timbres depuis son bureau.
Emmanuel Duteil, vous parlez cosmétique ce soir avec votre invité.
Bonsoir Franck Marilly.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le patron européen du groupe Shiseido et patron monde pour les parfums, toujours bien évidemment pour le groupe Shiseido. Alors on ne le sait peut-être pas, c'est le numéro 5 mondial des cosmétiques, le groupe Shiseido. Et vous fêtez aujourd'hui les 20 ans de vos usines en France. Vous en profitez pour investir fortement dans l'Hexagone. 50 millions d'euros vont être investis notamment dans ces usines. Pourquoi un groupe japonais croit à la France ?
Alors effectivement, vous faites bien de le souligner, 50 millions d'euros, c'est une somme importante. Il faut savoir que le groupe a beaucoup investi depuis un certain temps sur la France, avec la création d'un siège social rue du Faubourg Saint-Honoré, qui comporte 700 employés, une filiale France à Levallois-Perret, et puis effectivement, deux magnifiques outils industriels, deux centres de production, dont un qui est situé effectivement à Gien, près d'Orléans, et l'autre à Ormes, qui est une magnifique usine de plus de 20 000 m2, qui compte à peu près 400 personnes. Et ces investissements sont à la hauteur des ambitions du groupe.
Mais quand vous dites à vos amis japonais, à vos patrons japonais, je vais investir en France, vous leur dites quoi ? Parce que c'est important ? Parce qu'ils sont innovants ? Parce que la France est encore un gros marché ?
Parce que la France, c'est un marché à très très fort potentiel pour nous. C'est là où on doit réussir et c'est là où, objectivement et de manière très humble, on est les plus petits aujourd'hui sur l'échiquier européen. Et on a de fortes ambitions, effectivement, parce que le marché est très tenu par les marques françaises. Mais un groupe japonais comme le nôtre, de par ses valeurs, de par sa capacité créative, de par son portefeuille de marques sélectives, a également une carte à jouer. Et c'est pour ça qu'on croit beaucoup dans la France, qu'on investit beaucoup dans cet outil industriel qui, par là même, va être en fait nous servir de vecteur de croissance sur la division parfum, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais le groupe Shiseido a décidé d'implanter en France son centre mondial de la parfumerie. Donc, au sein du portefeuille de marques de maquillage, de soins et de parfums, effectivement, nous sommes les détenteurs donc des orientations stratégiques du groupe pour les parfums.
Quand on parle parfum, c'est des marques extrêmement connues, Dolce & Gabbana, Zadig & Voltaire, Elisab, que donc vous avez ici en France et que vous dirigez depuis la France, c'est parce que là, le Made in France... C'est le petit logo qui permet d'en vendre encore un peu plus.
Le Made in France, effectivement, est très important. C'est un gage de qualité. On connaît bien, de par le monde, le savoir-faire français, des artisans, des chercheurs. Et c'est pour ça qu'on s'est basé également en France, même s'il y a des liens culturels, économiques très forts entre le Japon et la France. On a estimé que la France était la meilleure plateforme possible pour développer cette activité sur le monde entier.
Et est-ce qu'il faut grossir encore sur ce monde des parfums ? Parce que votre gros concurrent L'Oréal va mettre là un gros coup. Ils sont en train de racheter la division parfum de Clarins avec des marques très connues comme par exemple Azzaro. Ça vous aurait intéressé, vous ?
Ce sont des très belles marques, effectivement. À chacun ses cibles. Hein. Maintenant, il faut que...
Mais ça vous aurait intéressé ?
Ça aurait pu nous intéresser, mais effectivement, nous n'étions pas alignés sur ce rachat. Vous avez dû lire dans l'actualité de ces derniers jours l'acquisition d'une marque qui s'appelle Drunk Elephant, une marque très forte aux États-Unis, qui a eu des croissances fulgurantes, effectivement, qui va rentrer dans le portefeuille de marque cette année.
Vous êtes un parfait journaliste parce que c'est vous qui faites les transitions. Parce que effectivement, je voulais arriver à cette marque qui a une histoire assez exceptionnelle. Hein. C'est une marque Absolument. Que l'on ne connaît pas ici en France. Ça fait partie de ces marques bio fondées par une femme un peu comme ça au hasard aux États-Unis. Alors, selon la légende, dans son garage, qui est aujourd'hui l'une des marques les plus vendues chez Sephora aux États-Unis.
Alors, je ne sais pas si c'était dans son garage. En tout cas, effectivement, c'était une femme au foyer. Elle a créé cette marque en 2012, sûrement de chez elle. Et c'est une marque, effectivement, qui a un taux de notoriété absolument fantastique aux États-Unis. Et comme je disais tout à l'heure, des croissances fulgurantes. Elle est numéro un actuellement chez Sephora aux États-Unis.
Est-ce que malgré tout, ça ne vous interroge pas, vous, grand groupe industriel de ce monde des cosmétiques? C'est-à-dire que vous n'avez pas eu l'idée de fonder cette marque qui est en train de cartonner aujourd'hui. Quand on est un grand groupe, on ne sait plus innover pour réussir à trouver ces pépites.
Ah, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, dans le sens où on innove, c'est au cœur de notre stratégie, l'innovation est prépondérante chez nous. J'en prends pour preuve récemment un concours d'innovation réalisé au sein du groupe avec la participation d'une plus d'une centaine de groupes qui sont venus nous présenter des projets d'innovation et qui seront présentés à la fin de l'année à notre grand patron, M. Masahiko Watani, au Japon. Et puis, l'esprit start-up fait partie du DNA de notre groupe, dans la mesure où on a acheté aussi des marques de maquillage, notamment, qui avaient été lancées il y a quelques années.
Mais typiquement, là, en interne, vous avez certaines de vos équipes qui vous disent « On est peut-être, Franck Marilly, en train de trouver la même pépite. Nous aussi, on travaille sur une toute petite entreprise qui pourrait avoir un potentiel extraordinaire. »
Complètement. Et après, c'est un alliage des forces. Effectivement, ces entreprises, c'est à nous de les sublimer de par, justement, la capacité d'innovation. À ce titre, on a ouvert au mois d'avril à Yokohama le nouveau centre d'innovation mondial. C'est un immeuble de 15 étages avec 1000 chercheurs qui aura à terme 1500 chercheurs. Le groupe investit aujourd'hui environ 3% de son chiffre d'affaires dans la recherche. Ça montera 4%, ce qui sont des montants extrêmement importants.
Certains de nos auditeurs et peut-être auditrices sont là en train de se dire, ils sont bien gentils, nous parle d'une marque qui est numéro un des ventes aux États-Unis. Je ne la trouve pas en France. C'est pour quand Drunk Elephant en France?
C'est une magnifique question, effectivement. C'est tellement récent comme nouvelle. Honnêtement, j'aurais l'humilité de vous dire qu'on y réfléchit sur le timing, effectivement, de quand cette marque arrivera en France.
Ça se calcule quoi? En quelques mois? On va dire au début de l'année prochaine, on peut espérer avoir Drunk Elephant en France?
Peut-être d'ici la fin de l'année prochaine. Mais c'est encore en gestation.
2020. Voilà. Le grand défi de tous les groupes de cosmétiques, comme vous, comme L'Oréal, comme tous les concurrents, c'est d'aller capter ces nouvelles clientes. Ce qu'on appelle les millennials, hein, ces jeunes qui sont nés dans les années, fin des années 80, début 90, qui sont en train de révolutionner la façon d'utiliser les produits et la façon de les acheter. Comment on s'adapte ?
On s'adapte effectivement au gré des marques que l'on a, avec des stratégies différentes par pays, parce que les modes de consommation ne sont pas les mêmes. En devenant beaucoup plus digital, beaucoup plus utilisateur de réseaux sociaux, on doit être plus intelligent dans la manière dont on s'adresse à cette clientèle par l'acquisition de nouvelles marques. Et Drunk Elephant est un parfait exemple, justement, puisqu'elle s'adresse à cette clientèle. C'est pour ça que dans notre portefeuille, il y avait objectivement une capacité à intégrer une marque qui nous ferait découvrir un nouveau territoire.
Un grand merci en tout cas Franck Marilly, le patron européen du groupe Shiseido et le patron monde pour les parfums également du groupe Shiseido. On se retrouve lundi 22h20 sur Europe 1.
Merci à vous effectivement et à lundi Emmanuel Duteil.
C'était l'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour gagner du temps. Plus besoin de se déplacer, imprimez vos timbres depuis votre bureau.
Et tout de suite, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Voici ce que vous découvrirez demain dans vos journaux. Les foucades de Trump déboussolent le monde, titre Le Figaro. À la tête d'une Maison Blanche en pleine crise de nerfs, le président menacé de destitution déroute par des décisions impulsives et contradictoires, comme en Syrie. America First, c'est le titre de l'édito de Dominique Diogon. L'avantage avec Donald Trump, écrit-il, c'est qu'on n'est jamais déçu. On a beau être prévenu à grand renfort de tweets incendiaires, de saillies verbales, niveau cours de récréation. Quand le coup prêt tombe, une décharge, mélange de stupéfaction et d'incrédulité vous parcourt les chines. Tel un éléphant dans un magasin de porcelaine, le président américain s'applique à piétiner le fragile équilibre mondial né sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale. Déjà salement amoché à son arrivée à la Maison Blanche, il finit de le dynamiter. Le retrait unilatéral de Syrie qui sacrifie les Kurdes et ouvre un boulevard à la Turquie et surtout à la Russie n'en est que la dernière déflagration. Donald Trump qui inspire également Denis Domin dans La Nouvelle République. Ronald Reagan, cow-boy d'opérette hollywoodienne, avait sa guerre des étoiles. Trump, son lointain successeur, joue de la gâchette sur les taxes douanières contre la Chine, la première, et sans désarmer, contre, puis avec, l'une ou l'autre des Corées, selon l'orientation du vent, contre la vieille Europe désormais. Faut-il désespérer? Les meilleures plaisanteries ont une fin, conclut Denis Domain. Et les affaires pendant au basque du président candidat se multiplient. Allez, champagne, il n'est pas encore taxé. Et puis un magnifique ours brun prend toute la une de Libération demain qui titre « La bile et la bête, l'ours des Pyrénées » dans le viseur des éleveurs, désemparés face au nombre record d'animaux tués cette année. Brebis, vaches ou chevaux, l'homme et l'ours ne savent plus vivre ensemble. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et on va faire tout de suite un nouveau point foot. Un détour rapide par Nice. Retrouvez Julien Froment, les Niçois qui affrontent le PSG. Est-ce que le score a évolué, Julien?
Non, le score n'a pas évolué. 87e minute de jeu, toujours 2-1 pour Paris face à Nice. Mais des Niçois qui évoluent désormais à 9 contre 11. Une 77e minute un petit peu folle où Monsieur Le Texier a sorti coup sur coup 2 cartons rouges. Tout d'abord pour William Cyprien qui a, on va dire, eu des mots doux à l'encontre de l'arbitre, ce qui ne lui a pas plu. Deuxième carton jaune, donc synonyme de carton rouge. Et puis dans la foulée, c'est le défenseur Christophe Herel qui a eu un geste déplacé sur un joueur du Paris Saint-Germain. La sanction est la même. Deuxième carton rouge, donc pour des Niçois à 9, qui pourtant étaient bien revenus dans la partie face aux Parisiens, notamment grâce au but signé Ganago à la 67e minute de jeu. Mais donc Paris, c'est pour le moment le PSG qui est devant. Encore 3 minutes à jouer. 2-1 pour Paris face à Nice. Alors qu'attention, peut-être une occasion pour le troisième but. Et voilà, le troisième but du Paris Saint-Germain. Il est signé de Kylian Mbappé, 88e minute de jeu. Donc 3-1 pour le PSG face à l'OGC Nice.
On aime beaucoup ça, les buts en direct. Merci de nous l'avoir fait vivre. Voilà, je l'avais demandé. Bah, ça y est, vous êtes formidable. Merci Julien. Je vous souhaite une excellente soirée à tous à l'écoute d'Europe 1 en compagnie de Sana Blanger pour votre libre antenne. Bonsoir Sana.
Bonsoir Isabelle.
Très belle émission et je vous retrouve tout à l'heure à 23h pour un nouveau point sur l'info.
Merci.